explorer de nouveaux mondes étranges.
Je sentais souffler sur ma nuque le vent fou de l'aventure.
Eh bien moi j'y vais, je plonge.
Le temps d'un bivouac.
Qu'emporteriez-vous sur une île déserte? On a tous eu droit un jour à cette question, cet exercice de pensée, censé nous faire prendre conscience de ce qui est le plus important pour nous, est un peu éculé. Alors, je vous propose une variante. Qu'emporteriez-vous sur un radeau pour recréer un écosystème suffisamment productif pour vous nourrir? Corentin de Châtel-Perron s'est posé la question, mais il ne s'est pas contenté d'un exercice de pensée, il est passé à la pratique. Cet ingénieur baroudeur s'est installé sur une petite plateforme en bambou au large des côtes thaïlandaises. Là, il a tenté de vivre seul, en autarcie, en utilisant des low-tech, des dispositifs simples, peu coûteux et durables, qu'il avait découverts à travers le monde au cours de ses voyages. Culture hors sol, élevage de grillons ou encore culture d'algues, notre ingénieur, à mi-chemin entre le petit prince et le professeur Tournesol, a embarqué une trentaine de ces dispositifs pour tenter de construire son écosystème autonome. Une aventure plus mouvementée que prévu, qu'il raconte dans un livre intitulé « Ma biosphère » aux éditions Artaud. Cet après-midi, Corentin de Châtel-Perron nous embarque avec lui sur son radeau au large de la Thaïlande pour une robinsonnade low-tech. Et en fin d'émission, nous prendrons des nouvelles de Victor Roux, parti en bateau sur les traces du célèbre naturaliste Charles Darwin. Il sera avec nous en ligne depuis le Cap-Vert. Voilà pour la feuille de navigation du jour. Cette émission est réalisée par Stéphanie Texier. Elle a été préparée par Claire Tesser avec à la technique Florian Dorimini. Soyez les bienvenus dans notre bivouac.
France Inter. Le temps d'un bivouac. Daniel Fievé.
Pour étudier l'autonomie, je trouve ça idéal d'avoir un truc flottant au milieu de nulle part. Ils sont beaux les bambous. D'après mes calculs, elle va prendre quasiment toute la surface à la serre.
Bon, ben, ça y est, je suis tout seul sur la plateforme. Pour 4 mois. Premier truc qui me vient à l'esprit, c'est que j'ai plein de trucs à faire, je suis débordé.
Bonjour, Corentin de Châtel-Perron.
Bonjour.
Nous vous entendions à l'instant sur votre radeau de bambou au large des côtes de la Thaïlande, prête à vivre seul pendant 4 mois de la façon la plus autonome possible. Dans quel état d'esprit vous étiez au début de l'expérience ?
C'était un petit peu intimidant parce que je me retrouvais tout d'un coup sur cette plateforme avec tout mon matériel, issu des plans que j'avais fait depuis des mois et des analyses et des prévisions et tout ça. Et tout d'un coup, je me retrouvais dans le concret, là, à devoir faire. Ouais. Et je m'attendais bien à ce que tout ne se passe pas exactement comme dans mes plans.
Ouais, c'est ça, on va le voir, tout ne s'est pas passé exactement comme prévu. Où se trouve-t-il ce radeau exactement ? Dans quelle baie ?
Alors en fait, dans le sud de la Thaïlande, ouais. il y a le parc national Phang Nga, qui est un petit peu comme la baie d'Along. Enfin, disons, ça fait un peu penser à ça. C'est des grands pics rocheux qui sortent de l'eau, et donc il y a des îles désertes. Mmh. Et en fait, au creux d'une de ces îles désertes, dans une petite baie, il y avait des plateformes comme ça flottantes qui servent pour des pêcheurs locaux à cultiver des algues ou à élever des poissons. Et moi, je me suis installé sur une de ces plateformes-là. Donc, elle faisait 70 mètres carrés, un plancher en bambou à environ peut-être 20 centimètres au-dessus de l'eau. Et voilà, j'ai débarqué tout mon matériel là-dessus, dans cette baie magnifique.
Vous avez eu un coup de foudre pour cette plateforme hein, quand vous y êtes arrivé pour la première fois. Vous le dites, hein, parce que c'était à une période, à une saison où il faisait moins beau quand vous avez fait l'expérience. Donc vous dites la brune ruisselle sur mon ciré autour des pics de l'île voisine. Une brume impose une atmosphère mystérieuse et vous en êtes persuadé, c'est le bon endroit pour mener à bien votre expérience.
Effectivement, je cherchais un endroit un peu isolé. Sans bonne terre, sans eau, enfin vraiment un endroit qui ressemblerait à un endroit aride, incultivable ou pollué, etc. Et en fait, je visais une plage d'une île déserte que j'avais repérée sur vue satellite. Ouais. Et en fait, j'avais pas vu, mais en arrivant à l'endroit, je me suis rendu compte qu'il y avait une énorme falaise qui empêchait vraiment tout mon projet de se faire. Mais en allant voir cet endroit-là, je suis passé, mais vraiment très brièvement devant cette baie. J'ai vu cet archipel de petites plateformes flottantes et je me suis dit, mais en fait, c'est exactement ça qu'il me faut.
Et le but, c'était vraiment de voir quel degré d'autonomie vous alliez arriver à atteindre sur cette plateforme de 70 mètres carrés.
Alors voilà, je voulais tester une trentaine de technologies, de savoir-faire que j'avais découvert pendant le voyage autour du monde avec mon bateau laboratoire, avec le Low-Tech Lab. Et j'avais du coup tout un protocole scientifique pour voir à quel degré d'autonomie je pouvais arriver avec cet écosystème, cette combinaison de low-tech. Donc j'avais fait une prise de sang avant, j'en ai fait une après, j'avais des moyens de mesurer un peu la performance de l'écosystème.
On va évidemment revenir sur ce que vous avez fait pendant cette expérience, mais revenons sur une expérience antérieure. S'isoler pour tenter de vivre en autonomie, loin de la civilisation, d'autres s'y sont essayés par le passé, avec plus ou moins de succès. En 1962, le journaliste Georges de Caunes s'était fait déposer sur une île inhabitée des Marquises, Eyao, pour vivre l'aventure de Robinson Crusoe. Il faisait des chroniques à distance pour la radio, pour rendre compte de son aventure. Et il a finalement dû être secouru avant que ça ne tourne mal. Le voici racontant son aventure une fois arrivé à Tahiti, juste après avoir quitté l'île d'Eyao.
Je me suis aperçu au premier coup d'œil d'abord que Eyao était invivable. C'est une île rocheuse abandonnée et il y a bien des raisons pour qu'elle soit abandonnée. Je me suis accroché pour y rester le plus longtemps possible, mais petit à petit j'ai senti que mes forces diminuaient et que je glissais vers un état d'affaiblissement complet. J'ai expliqué pendant mes chroniques que la pêche était impossible. D'abord parce que l'eau était boueuse, sale, qu'il y avait des requins partout. Et ensuite parce qu'on m'a averti que le poisson était empoisonné et qu'il valait mieux que je n'y touche pas. Sur le plan de la végétation, il n'y a absolument rien. J'ai essayé de faire pousser des légumes d'abord un petit peu comme passe-temps parce qu'il fallait bien que je m'occupe. Mais tout ça n'était pas suffisant pour me tenir physiquement. Et malgré tous les efforts que j'ai faits pendant 4 mois, j'ai senti que j'allais lentement vers une dégradation complète et qu'il allait arriver un jour où ça allait claquer complètement, où je me coucherais sur les rochers et où je serais même incapable de venir faire mon émission. C'est à ce moment-là que le docteur est arrivé, car ma situation physique transpirait un peu à travers mes chroniques de radio. Il m'a examiné, il m'a dit « il faut que vous rentriez le plus vite possible ».
Georges de Caunes, affaibli après avoir passé 4 mois seul sur l'île d'Eyao en 1962. L'expérience devait durer plus longtemps. Il a quand même passé 4 mois sur cette île, autant que vous sur votre plateforme, Corentin. Alors il le dit, il a essayé de cultiver quelques légumes, mais de façon peut-être un peu moins préparée que vous ne l'étiez. Corentin, tout de même, est-ce qu'avant de commencer votre expérience en solitaire sur votre radeau, vous avez envisagé la possibilité que ça tourne mal, que vous ne parveniez pas à subvenir à vos besoins alimentaires et qu'il faille interrompre l'expérience?
Oui, bien sûr. Et en fait, alors je risquais pas ma vie parce que bon, il y avait un village à 20 minutes en bateau, il y avait des pêcheurs qui passaient de temps en temps dans la baie, donc vraiment je risquais pas du tout ma vie. Mais il y a plusieurs fois où ça a failli échouer pour plusieurs raisons. Par exemple, mon dessalinisateur solaire n'a pas bien fonctionné et par 2 fois j'ai une crise d'eau. Et heureusement qu'il a été sauvé par une pluie à chaque fois. Ouais. Mais oui, ça aurait pu mal tourner pour mon écosystème, sachant que s'il y a plus d'eau, en fait, en 24 ou 48 heures, c'est un peu la catastrophe et pour moi et pour tous les trucs vivants qui étaient à bord.
Évidemment, l'eau douce était un peu l'un des nerfs de la guerre. À l'origine de votre idée, il y a un article dans un magazine scientifique dans lequel Elon Musk, célèbre milliardaire qui veut coloniser Mars, prétendait reconstruire artificiellement une biosphère sur la planète rouge, c'est-à-dire, comme vous, un écosystème, finalement, qui fonctionnerait en vase clos. Et cet article vous a travaillé pendant plusieurs jours, Corentin. Pour quelle raison?
Je me suis pris un peu pour le Elon Musk des low-tech.
Oui, c'est ça. Donc les low-tech, en fait... précisons bien ce que vous appelez ces low-tech.
Alors, les low-tech... Ça fait depuis 2013 que je travaille dessus. On a créé une association avec des amis qui s'appelle le Low-Tech Lab. Et en fait, on cherche partout autour du monde des technologies ou des savoir-faire qui répondent à 3 critères. Utile, donc qui répond aux besoins de base comme l'accès à l'eau, à l'énergie, la nourriture, la gestion des déchets, etc. 2e critère, accessible, et c'est pour ça qu'on a choisi le terme low-tech à la différence des high-tech. Ça demande pas des compétences très pointues ou des outils très spécifiques. On peut les faire ou au moins les réparer un peu partout dans le monde, se les approprier facilement. Et 3e critère, c'est durable, écologique.
Donc vous vouliez, face à l'artillerie lourde de la NASA et d'Elon Musk, vous vouliez créer votre biosphère low-tech. low-tech.
Ben voilà, quand j'ai commencé à voir qu'il y avait tout un panel de low-tech génial partout dans le monde, mais qu'elles avaient été inventées à des endroits différents, je me suis dit, mais en fait, une combinaison de ces low-tech pourrait vraiment nous permettre de repenser nos modes de vie. Mmh. Et nous permettre de repenser, à l'époque où c'est nécessaire aujourd'hui, repenser notre manière d'habiter la planète. Mmh. Et en fait, quand j'ai commencé à faire des recherches sur ces écosystèmes de technologies qui permettent la vie, je me suis rendu compte que les plus proches qui faisaient ces recherches-là, c'est les agences spatiales, ouais. comme celle d'Elon Musk ou la NASA, etc. Et donc, j'ai repris le nom Biosphère, avec un peu, voilà, c'est un peu humoristique aussi, parce que ça ressemble pas vraiment à ce que eux mettent en place.
Oui, on est d'accord. Alors vous, vos low-tech, il y a par exemple un désalinisateur d'eau de mer dont vous parliez et qui a malheureusement pas très bien fonctionné. Il y a aussi des cultures hydroponiques hors sol que vous aviez apprises à mettre en place au Cap-Vert, par exemple.
Oui, ça c'est un système qui me passionne. Il y a beaucoup de terres incultivables dans le monde, beaucoup de zones qui sont arides où il y a peu d'eau. Il y a beaucoup de zones urbanisées et en fait pour ces régions-là, la culture hors sol peut être intéressante. Donc le système que j'avais, j'utilisais de l'urine mélangée à de l'eau, transformée par des bactéries qui transformaient l'ammoniac en nitrate et puis d'autres choses. Hein, c'est plus complexe que ça, mais ça faisait un engrais pour des plantes. Et alors l'eau mélangée à cet engrais-là passait à travers les racines des plantes et faisait pousser des légumes-feuilles comme des épinards, des choux, de la menthe, du basilic, etc.
Oui, parce qu'à bord, hein, pour, comme plante, alors vous avez envie de faire pousser des patates douces, des légumes-feuilles, comme vous venez de dire, vous vouliez aussi manger des champignons, vous aviez une culture de champignons, ça aussi c'est quelque chose que vous aviez appris lors de vos voyages.
Alors oui, j'ai découvert le monde des champignons, ouais. qui a un règne à part entière et c'est vraiment magique. Un champignon, ça peut pousser sur des déchets organiques, ça peut pousser sur du marc de café, de la paille, du carton, des copeaux de bois. Et en fait, ça transforme du bois en nourriture. Et ouais. ça, je trouve ça magique.
Ouais. Et ça, c'était plus d'ailleurs pour la magie, parce que d'un point de vue nutritionnel, vous n'en aviez pas forcément besoin de ces champignons.
Alors, c'est vrai, bon, ça apporte des vitamines du groupe B, par exemple. Ouais. Quelques minéraux. Mais c'est vrai que c'est surtout que ça me faisait plaisir.
Oui, c'est ça, vous vous êtes fait plaisir. Mais il y a un peu cette idée, hein, vous vous êtes vraiment renseigné du point de vue nutritionnel pour à chaque carence, quelle maladie vous risquiez. Donc, vous avez vraiment essayé de composer finalement votre biosphère sur votre radeau, tel Noé faisant son arche, mais évidemment avec la possibilité d'embarquer moins d'êtres vivants à bord. Vraiment, vous avez pensé cet écosystème de cette façon?
Ça, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant pendant la préparation, en fait, de revenir à quels sont nos besoins.
Ouais.
Autant d'un point de vue nutrition, mais en général, je vais me retrouver sur une plateforme flottante. C'est un peu votre question du début. Qu'est-ce que vous emmèneriez sur une île déserte? Cette question, elle est géniale pour moi. C'est comme préparer un sac pour une randonnée. Bah, en fait, on essaye de mettre le minimum, le plus efficace possible. Et là, c'était cette démarche-là, mais même pour la nourriture, pour l'eau, pour tout ça.
Il y avait beaucoup de choses censées marcher, en théorie, mais ça se complique souvent hein, quand on passe à la pratique. Vous allez nous raconter comment vous avez vécu sur ce radeau de bambou pendant 120 jours. Corentin de Châtel-Perron nous emmène bivouaquer dans sa biosphère flottante au large de la Thaïlande cet après-midi sur France Inter.
Qu'un grain de poussière, un grain de poussière qui colle à tes bottines, qui bloque la machine, qui fait d'une ville un désert. Un grain de poussière, un fils de la terre et du vent. Un grain de poussière, perdu comme un enfant dans l'œil du firmament, prisonnier d'un courant d'air. Un grain de poussière, un fils du soleil et du vent. Un grain de poussière qui erre paradisière de l'enfer et du ciel. Un ange gardien du néant, un grain de poussière, infiniment petit ou grand.
Je suis un grain de poussière, c'était Jackie Gelin sur France Inter dans le temps d'un bivouac.
Ah non, c'est bon, viens. J'ai pas besoin.
Il y a le voisin qui a une plateforme pas loin là, c'est un pêcheur. Il est venu, il m'a apporté des trucs à manger. Ce qu'il y a, c'est que je parle pas un mot de thaï et du coup j'ai pas pu expliquer que je faisais une expérience d'autonomie et que je pouvais pas manger autre chose. Et du coup, je sais pas quoi faire de ça. Et même du café. Le café, c'est le truc qui me manque le plus.
Extrait du documentaire 4 mois sur ma biosphère, en replay sur le site d'Arte. Parce que votre aventure, Corentin de Châtelperron, a donné lieu à un documentaire. Vous vous êtes filmé pendant ces 4 mois sur votre radeau de bambou. Et on l'entendait, hein, vous étiez seul sur votre radeau, mais vous aviez des voisins thaïlandais, ces pêcheurs qui vivaient sur les plateformes alentours et qui venaient parfois vous rendre des visites de courtoisie. Sauf que, évidemment, ils avaient un peu de mal à comprendre ce que vous fabriquiez sur votre plateforme à vous.
Ouais, c'est vrai que c'était pas évident à expliquer au début, et puis ils parlaient pas anglais, je parlais pas thaï, donc j'essayais de leur montrer avec des gestes, et forcément leur premier geste d'accueil, eux, c'était de venir m'apporter de la nourriture, et c'est le truc que je pouvais pas manger, donc ce qui complexifiait encore plus la compréhension.
Ouais, parce que vraiment, vous vouliez ne vous tenir qu'à manger ce que vous produisiez sur votre plateforme pour voir s'il était possible d'être autonome. Alors qu'est-ce que vous en avez fait de ce café? C'est vrai que ça a dû vous manquer terriblement, le café au petit-déj.
En fait, c'est là que je me suis rendu compte qu'il y a plein de trucs que je mangeais depuis des années et des années, tous les jours.
Ouais.
Du sucre, du café, des fruits, et en fait tout ça je me suis retrouvé privé pendant 4 mois, et il y a certains qui étaient un petit peu difficiles.
Ouais, c'est ça. Le café, vous avez tenu, hein, vous n'y avez pas touché au café qu'on vous a offert. De quoi étaient faits vos petits déjeuners alors?
En fait, je mangeais un espèce de plat de base, un peu tout le temps la même chose. Enfin, je variais en fonction des plantes au fur et à mesure que j'arrivais à cultiver. Mais c'était à base de patates douces, principalement, de spiruline, de grillons, un petit peu de maïs et des champignons.
Ouais. La spiruline, c'est une algue, hein, on aura l'occasion d'y revenir. Bon, là, comme vous le dites, ça donne pas forcément envie, hein. Bon, les patates douces, pourquoi pas? Vous aviez le four solaire, une low-tech pour les faire cuire. Mais ces grillons, alors c'est en Thaïlande que vous avez appris à élever les grillons après une rencontre sur un marché à Phuket.
Ah, bon.
Alors moi qui lis bien le thaï, ouais, les grillons.
Vous en voulez?
On peut goûter cela? Ouais.
One.
Hein?
Ok, one.
Ça c'est quoi?
Ah ouais, cela aussi.
One.
Hey, il veut faire un mix. C'est pas mal.
Ouais, c'est plus.
Les verts, c'est bon.
C'est
hein.
Ah oui.
J'ai jamais vu des sauterelles si grosses. Faut pas le manger si on pouvait manger la tête.
Mais apparemment, on peut.
Oh, c'est vraiment pas mal. C'est toi qui les produis?
Yes.
Oui, c'est moi.
Comment est-ce que ça grandit? Dans la nature ou est-ce que c'est toi qui les élèves?
Je les élève dans une ferme.
Okay.
Dans la nature, on n'en trouve pas assez.
Et ça nous intéresserait d'aller voir une ferme.
Vous voulez venir demain?
Ok. Cool.
Extrait de la série Nomade des mers diffusée sur Arte. Ça a quel goût, ces grillons, Corentin de Châtelperron?
Alors, c'est le goût de ce qu'on met avec.
Ouais.
parce qu'en fait, quand on les fait revenir avec un peu d'ail, du poivre, du sel, ben ça a le goût que vous imaginez du coup. Mais c'est la consistance qui est intéressante et ça fait un petit peu comme des crevettes terrestres au final.
Ouais, et ça représentait quelle part de vos repas? Vous mangiez quelle quantité de grillons par jour?
Il fallait, d'après mes calculs, que j'en mange 90 grammes par jour pour des apports en vitamine B12, en protéines et puis quelques autres éléments.
Et comment vous les éleviez alors sur votre radeau, ces grillons?
Ils adorent vivre dans les boîtes de carton pour les œufs.
Ouais.
Vous voyez comment c'est? Et vous en empilez plusieurs et ils vivent à l'intérieur. Et après, ils mangent un peu comme de la nourriture pour poules. C'est omnivore, en fait. Ouais. Donc, ça peut manger des déchets aussi.
Mais au-delà du côté insolite, hein, encore chez nous, que ça, de manger des insectes, c'est une solution d'avenir, selon vous, de se nourrir d'insectes?
Alors, moi, je suis végétarien et pourtant, je fais une exception pour les insectes parce ouais. que... Alors, on estime qu'il y a 2 milliards de personnes sur Terre qui mangent traditionnellement ou qui ont dans leur régime des insectes. Et en fait, ça prend très très peu de ressources. Comparé, par exemple, si on prend 1 kilo de bœuf ou 1 kilo de grillon, ça n'a rien à voir d'un point de vue ressources en eau, en nourriture, en espace, en temps de travail.
Donc les grillons, c'est la seule viande que vous autorisiez à bord. Par exemple, vous ne pêchiez pas les poissons qu'il devait y avoir autour de vous dans la baie?
Alors non, pourtant, il y avait des poissons, il y avait des pêcheurs, il y avait des algues, il y en a même qui avaient des sortes de homards, plein de choses appétissantes. Mais non, je suis parti du principe que tout ce qui rentrait sur la plateforme était un intrant.
Ouais.
Et donc, j'essayais de limiter le nombre d'intrants pour être le plus autonome possible.
Alors, vous aviez quand même embarqué avec vous deux poules, pas pour les manger, mais pour les œufs qu'elles pouvaient produire.
Oui, c'est ça. J'avais une team de poules, poules rousses et poules blanches.
Et poules blanches, ouais.
Et comme poules rousses étaient un peu en fin de carrière et poules blanches étaient naines, elles faisaient des petits œufs, j'avais décidé de prendre une troisième poule avant de partir. Et l'éleveur de poules n'avait plus que des poussins canards. Ouais. Et donc, je me suis retrouvé avec cette canne.
Ouais. C'est une très belle rencontre, ça. Parce que vous la racontez dans le livre. Vous êtes chez cet éleveur. Il vous met dans la main ce poussin canard. Vous vous regardez et vous vous dites, bon... je l'embarque, j'aurai un canard. Sauf que vous n'étiez pas trop renseigné. Ça montre, alors à la fois c'est très prévu et à la fois il y a une part un petit grain de folie. Vous n'étiez pas renseigné et en fait, vous n'avez jamais eu de canard en fait, parce que. De canne en tout cas.
C'est vrai que je m'y connais un peu en poule et une poule au bout de 4 mois ça peut commencer à pondre alors qu'une canne c'est au bout de 7 ou 8 mois et ça c'est vrai que je ne savais pas. Mais c'était vraiment un coup de cœur, cette canne.
Mais du coup, cette canne, elle a changé de statut au fur et à mesure de l'aventure, puisqu'au départ, elle devait pondre, et finalement, c'est devenu votre compagnonne de route.
Alors, c'est vrai que j'avais tout un espèce de logiciel qui me permettait de suivre vraiment, de mesurer dès que je récoltais de la spiruline, dès que je récoltais un œuf, etc. J'appelais ce logiciel la Matrix. Et la canne était au début intégrée dans l'écosystème de cette matrix. Et en fait, quand je me suis aperçu qu'elle pondrait jamais, que c'était plutôt la compagnie qu'elle m'apportait, je l'ai sortie de la matrix.
Oui, c'est ça. Mais pas de votre vie. Elle était avec vous. Vous nagiez avec autour de la plateforme. Et vous aviez aussi donc comme source de protéines ces algues, la spiruline. Ça, c'est à Madagascar que vous avez appris à cultiver cette algue. Dans quelles circonstances?
Alors ça, c'est une escale dont je me rappellerai toute ma vie. On a rencontré le docteur Vola, qui est une scientifique malgache, qui a remarqué deux choses, que dans sa région, dans le sud, près de Tuléar, avec la désertification, avec la pauvreté, il y a beaucoup d'enfants malnutris. Et elle a remarqué qu'il y avait cette algue, enfin c'est une cyanobactérie en réalité, une micro-algue, qui poussait naturellement dans des espèces d'étangs salés. Et donc, elle a créé une ferme de spiruline pour produire de la spiruline pour ses enfants malnutris. Et en même temps, elle en vend. Et elle forme aussi des jeunes malgaches à créer leur propre ferme de spiruline.
Mais alors, même question, parce que ça aussi, de la spiruline, c'est une des cultures qui a bien marché. Donc, vous en aviez à tous les repas, ça. Quel goût, cette spiruline.
Alors, ceux qui connaissent la spiruline sous forme de poudre, en général, c'est pas très bon. Enfin, j'ai un petit peu du mal avec la poudre de spiruline. Faut la mélanger à quelque chose. Mais alors, quand c'est frais, moi, je trouve que ça a un goût très neutre et ça s'associe très bien avec d'autres éléments. On peut faire un pesto de basilic, on peut faire différents pestos. C'est un peu comme si vous aviez la consistance de la mayonnaise.
D'accord. Ça, c'est pour la consistance. C'est souvent une question de consistance plus que de goût. Vous dites quand même que rien que la culture, quand on sent l'odeur de la culture, ça sent un peu l'odeur de sang.
C'est vrai. Après, c'est une odeur assez discrète quand même. Bon, c'est pas hyper appétissant, mais en fait, comme beaucoup des éléments qu'il y avait sur la biosphère, on s'y attache. Et puis, en fait,
ah oui, vous étiez attaché à votre spiruline.
Ah oui, alors que je m'étais jamais attaché à une bactérie. Et en fait, si elle va bien ou pas bien, elle change de couleur, elle change d'odeur, elle change de goût, elle change de consistance. Ouais. Et donc, on s'y attache.
Et alors, le but de cette biosphère, c'est que tous les déchets deviennent ressources pour certains organismes à bord. Donc, votre spiruline, comment vous la nourrissiez?
Alors, elle, c'est très facile, en fait. C'est aussi une source d'azote. Donc, l'urine est une formidable source d'azote. Donc, il faut mettre c'est juste quelques gouttes d'urine et du jus de clou rouillé, parce qu'elle a besoin de fer.
Donc, vous donniez, en fait, une partie de votre urine pour nourrir la spiruline et ensuite, vous vous nourrissiez de cette spiruline.
Ouais.
Bon, alors ça, c'est pour le côté idéal, mais évidemment, ça se passe pas aussi bien. Déjà, on l'a dit, en ressources en eau, des fois, c'était limite. Vous étiez à la limite de la crise de l'eau à plusieurs reprises sur votre radeau.
Ah ouais, l'eau, ça a été vraiment le truc qui a failli tout faire planter. Et heureusement, il a plu à temps et mon désalinisateur a quasiment pas servi au final.
Valait mieux parce que le désalinisateur, l'idée, c'est un système avec le soleil qui fait évaporer l'eau et puis ensuite, vous auriez dû récolter de l'eau douce en théorie.
Voilà, c'est pour transformer de l'eau de mer en eau douce grâce à l'évaporation de l'eau qui du coup laisse le sel quand elle s'évapore. Ouais. Et donc je la condensais sur des bâches, mais bon, ça a pas très bien marché.
Donc valait mieux ne pas compter sur lui. En fait, il a jamais vraiment bien marché.
Ouais, non, il m'a vraiment déçu. Alors que c'est un principe qui marche, qu'on avait étudié pendant notre escale au Maroc.
Ouais.
Et bon, il faut savoir aussi que le principal travail, c'était de réduire les besoins en eau. J'ai utilisé que des systèmes qui consommaient très peu d'eau. Et j'utilisais entre 20 et 30 litres d'eau par jour. Donc, en fait, en nombre de chasses d'eau, ça ferait peut-être 4 chasses d'eau.
Ouais. On sent toute la démarche qu'il y a derrière, vraiment vivre en essayant d'économiser, d'être le moins énergivore possible aussi. Alors, en source d'énergie, vous aviez un petit pédalier pour produire de l'électricité, parce que pour alimenter les pompes de toutes ces cultures, il fallait aussi un peu d'électricité.
Alors voilà, j'avais une petite éolienne, mais qui a pas beaucoup fonctionné, parce qu'il n'y avait pas de vent dans la baie. Il y avait des petits panneaux solaires. Et quand il n'y avait pas de soleil, j'avais un pédalier de vélo qui pourrait fournir de l'énergie.
Alors, il faut quand même le dire, au début, on n'est pas loin de la bérésina. Les patates douces poussent très mal, les poules mettent du temps à pondre, peut-être parce qu'elles sont déstabilisées par l'environnement dans lequel elles se trouvent. Les légumes feuilles font grise mine. Au début, ça tourne mal, votre biosphère.
Alors même pas au début, pendant 3 mois.
Ouais.
Pendant 3 mois sur les 4, ça a été compliqué. C'est que le dernier mois que ça a bien marché, mais j'ai dû abandonner certains trucs. Bah, le désalinisateur, on en a parlé. Les patates douces, ça a pas du tout marché.
Ouais. Même les poules, déjà, il y en a une des deux qui, à un moment donné, meurt. Alors ça vous affecte beaucoup et vous décidez d'exfiltrer la survivante. Donc vous passez de la ressource en œuf à partir de ce moment-là. Bon, vous êtes persévérant, Corentin de Châtel-Perron. Votre devise, s'il y a une chance sur 10 que ça marche, il faut essayer 10 fois. Mais là, votre persévérance a été mise à très rude épreuve. Au bout de quelques semaines, il y avait de quoi être un peu inquiet pour vous. Nous allons voir dans un instant dans quel état vous avez fini cette expérience.
Thank you.
C'était Algy qui chantait You and Me.
Le temps d'un bivouac. Daniel Fievé sur France Inter.
Ça fait deux nuits qu'il y a un grillon qui me monte sur la tête et qui me réveille. Aïe. J'espère qu'il n'y en aura pas d'autres cette nuit. J'ai croisé une énorme blatte. J'ai un peu l'impression que l'écosystème s'emballe. J'en ai super marre. Je me fais bouffer par les moustiques. C'est ça le repère des moustiques. Il y en a partout. J'ai pas fait une biosphère pour les moustiques. Les chenilles, elles s'arrêtent pas de s'attaquer aux plantes. En ce moment, j'ai un peu l'impression de manger les restes de ce que me laissent les chenilles. Je me demande du coup si dans la chaîne alimentaire, je suis pas en dessous des moustiques et des chenilles.
Notre invité, Corentin de Châtel-Perron, un peu débordé par l'écosystème qui se met en place sur son radeau. Corentin, vous vouliez créer une biosphère et en être le grand organisateur. Vous avez eu vraiment un moment le sentiment d'être dépassé par les événements?
Ah ouais, complètement. Et tout d'un coup, il y a eu les mouches, les moustiques, les chenilles, les araignées rouges. Il y a eu tout ça qui s'est installé au fur et à mesure sur la biosphère, sur la plateforme. Et je savais pas maîtriser le truc, en fait. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, ben, en fait, si je devais dessiner une chaîne alimentaire, je serais pas du tout en haut. Ouais. Il y a même des geckos qui ont débarqué,
des geckos, des petits lézards. Vous les entendez ricaner la nuit. Vous avez du mal à identifier. Vous savez pas trop comment ils sont arrivés sur votre radeau.
Non, j'en ai aucune idée. Pourtant, ça doit pas nager une distance aussi grande. Et donc, ça m'a ramené à une position d'animal parmi les autres, en fait, d'espèce parmi les autres. Ouais. Et on n'a pas l'habitude, en fait, d'être dépendant d'autant d'espèces vivantes, mais aussi du vent, du soleil, de la pluie. Et donc, voilà, je me retrouvais un peu à l'état naturel.
Ouais. Vous vous sentiez vulnérable sur cette plateforme, justement, parce qu'on disait vous aviez besoin de l'eau de pluie pour avoir de l'eau douce. Mais quand le temps virait vraiment à l'orage, vous étiez quand même peu de choses avec ces quelques bâches pour faire une serre sur cette plateforme de 70 mètres carrés.
Et rien, ouais, il y a ça, rien que la montagne à côté, qui était une île déserte, en fait, était hyper imposante. Et puis, se retrouver dans les éléments naturels et puis être dépendant, même dépendant d'une poule. Et si elle pond, vous allez manger un œuf. Si elle pond pas, vous n'allez pas manger d'œuf. Ouais. Eh ben, j'ai trouvé ça intéressant. J'avais l'expérience du bateau en naviguant. En fait, on subit un peu la météo parce que s'il y a plus il y a de vent, plus on avance vite. S'il y a des vagues, c'est pas agréable, etc. Mais là, c'était ça fois mille parce que je dépendais de tous les autres trucs vivants.
Alors, on s'en rend compte en vous lisant, hein, Corentin de Châtel-Perron. C'était vraiment pas de tourpeau de jouer les Robinson. L'écrivain Michel Tournier en avait donné un aperçu dans son roman Vendredi ou les limbes du Pacifique. Dans son livre, il y a un passage où Robinson s'endort. L'horloge à eau, une low-tech, hein, ça devrait vous faire plaisir, qui lui sert à mesurer le temps, s'arrête. Je vous propose d'écouter Michel Tournier évoquant ce passage.
L'horloge à eau, qui mesure son temps et son emploi du temps, est sa conscience de travailleur, sa conscience d'homme qui obéit à son devoir, et qui a un certain nombre de choses à faire tous les jours, et qui ne doit pas rater ce qu'il fait, et ne doit pas prendre de retard. Alors, l'horloge s'arrêtant, il se sent brusquement en vacances.
L'aube était déjà rose, mais le grand concert des oiseaux et des insectes n'avait pas encore commencé. Pas un souffle d'air n'animait les palmes qui festonnaient la porte grande ouverte de la résidence. Quand il comprit soudain la cause de son éveil tardif, il avait oublié de regarnir la clepsydre la veille et elle venait de s'arrêter. À vrai dire, le silence insolite qui régnait dans la pièce venait de lui être révélé par le bruit de la dernière goutte tombant dans le bassin de cuivre. Robinson s'étendit voluptueusement sur sa couche. C'était la première fois depuis des mois que le rythme obsédant des gouttes s'écrasant une à une dans le bac cessait de commander ses moindres gestes avec une rigueur de métronome. Le temps était suspendu. Robinson était en vacances.
Extrait de Vendredi ou les limbes du Pacifique de Michel Tournier, lu par Jean Topard. Ce passage m'a fait penser à vous, Corentin de Châtel-Perron, car vous aussi, sur votre radeau, au milieu de cette baie pourtant assez paradisiaque de Thaïlande, après quelques semaines, vous avez eu besoin de repos, de vacances. Vous cherchiez à faire cet écosystème en circuit fermé. Et en fait, c'est vous qui étiez un peu en circuit fermé dans votre petit espace, votre petit radeau.
Ouais, je trouve que c'est un bon choix de référence parce que j'avais lu ce livre Vendredi ou les limbes du Pacifique et en fait il m'est arrivé un petit peu la même chose. Il me semble que dans toute la première partie de ce bouquin, il recrée une civilisation, il bosse tout le temps, etc. Et au bout d'un moment, il y a une espèce de transition et puis il prend du recul par rapport à tout ça et il s'extrait un petit peu de sa société qu'il a créée. Et moi, il m'est arrivé un petit peu la même chose, c'est-à-dire que je suis arrivé un peu comme un scientifique à vouloir tester mes trucs, expérimenter. J'avais Matrix, j'avais la Tanita la balance, j'avais mes histoires de prise de sang, j'avais tous mes tests en cours.
Parce que vous pesiez puis, à longueur de
je me pesais deux fois par semaine, ouais, pour tout mesurer. Vraiment, je mesurais tout. Et au bout d'un moment, alors c'est pas un burn-out, mais je me suis rendu compte
que c'est pas loin du burn-out. Hein.
C'était trop en fait, et j'ai dû m'extraire. Je me souviens la première fois où je me suis extrait de la plateforme, j'avais un paddle, je suis allé ramer un petit peu au large, et ça m'a fait un bien fou. Et maintenant, quand je reviens dans la société française classique, je me rends compte qu'on est aussi un peu dans un il y a un flux d'informations permanentes, on a toujours Internet, on a le téléphone, on a des rendez-vous, etc. Et en fait, c'est pas un coup de paddle qui nous permet de sortir de notre plateforme française, c'est beaucoup plus difficile, mais on en a tous besoin, je pense.
Mais c'est vrai que sur votre plateforme, alors vous vous surprenez à parler tout seul, votre principal interlocuteur, c'est la canne hein, qui est avec vous, hein, ce canard. Vous êtes demandé à un moment si vous étiez en train de devenir fou sur votre petit radeau, à expérimenter, à avoir votre vie suspendue à une poule qui doit pondre, à une plante qui doit pousser et qui ne pousse pas.
Pas fou, mais ça m'a vraiment fait réfléchir sur... notre condition, notre lien avec la nature, ça m'a fait réfléchir sur plein de choses. Et puis, c'est là que mon questionnement purement d'ingénieur de base s'est élargi et c'est devenu plus philosophique pour moi, plus sur pourquoi est-ce qu'on fait ça, de quoi est-ce qu'on a besoin, vers quoi est-ce qu'on va, où nous mène le progrès, etc.
Ouais. Oui, il y a toutes ces... À la fois, il y a un travail introspectif, hein, parce que vraiment, à un moment, vous demandez est-ce que j'en fais trop, est-ce que j'en fais pas assez. Il y a aussi... Et puis, vous analysez aussi un petit peu hein, les différentes personnalités qui se bataillent en vous face à l'adversité. Et puis, il y a aussi cette réflexion sur notre lien à la société. Dans quelle mesure vous pensez que cette expérience que vous avez menée, qui est quand même assez extrême, peut nous inspirer, nous, dans notre vie beaucoup plus classique de tous les jours?
Alors, de différentes manières, il y a déjà toutes ces low-tech qui peuvent trouver des applications, quelquefois à échelle plus collective, autant dans des pays riches que dans des pays pauvres. Et ça, c'est tout le travail de mon association, de les répertorier, de scanner la planète à la recherche de toutes ces technologies, toutes ces low-tech pour qu'on puisse s'en servir, pour avoir des modes de vie plus sains, plus durables. Et puis ensuite, moi j'estime, c'est ce que je mettais dans le livre, que j'ai vécu comme un team building interespèce, me retrouver seul humain au milieu de toutes ces espèces et dépendre d'elles, mais aussi dépendre du vent, de la météo, du soleil, de tout ça. Et ben ça m'a reconnecté avec la nature et ça m'a montré à quel point tout ça était nécessaire, au point que je me suis dit, mais même moi, en fait, dans mon corps, j'ai des micro-organismes qui sont pas moi en fait, qui sont le microbiote par exemple, qui me permettent de digérer. Je pourrais pas vivre sans eux. Et je suis moi-même un écosystème. Et je dépends aussi d'autres espèces sans lesquelles je pourrais pas vivre. Et en fait, je pense que ça, c'est quelque chose que moi qui a changé ma vie, mais qui devrait aussi nous inspirer, nous dire en fait, faut pas voir notre avenir comme un truc où il y a l'humain et la nature à côté. On est lié à la nature, on peut pas faire sans.
Et au-delà de ces réflexions, dans quel état physique vous étiez après ces 4 mois, Corentin de Châtel-Perron? Parce que c'était aussi ça, hein, le but, c'était de voir est-ce que vous arriveriez à subvenir à vos besoins.
Eh ben oui, alors les 3 premiers mois, j'ai pas mangé assez équilibré, mais le dernier mois, oui. Et en fait, la prise de sang finale, en comparaison avec la prise de sang initiale, était excellente. C'est-à-dire que j'ai pas eu de carences qui se sont développées. Et donc après coup, je me dis, mais c'est dingue à quel point on peut vivre en fait avec très peu, avec très peu d'énergie, avec très peu de nourriture. Avec, en fait, là aujourd'hui, on vit de manière extrêmement, comment dire. On vit avec énormément par rapport à nos besoins de base.
surconsommation, quoi, surabondance de biens. Vous allez recommencer une expérience de ce type, fort de ce que vous avez compris, pour peut-être le faire, mais de façon plus aboutie.
Oui, alors là, c'était il y a 3 ans. Depuis, on a fait des escales dans d'autres pays. On a découvert plein d'autres super low-tech. Et puis, plusieurs dans l'association, on essaie de voir comment améliorer l'écosystème et puis comment aussi mieux le designer, le rendre plus désirable et commencer à réfléchir à comment notre futur pourrait intégrer des low-tech. Comment est-ce qu'on peut imaginer un futur souhaitable, sain, durable, ouais, épanouissant grâce au low-tech.
Et ce sera où? Alors, ce sera pas sur une plateforme au large de la Thaïlande? Vous allez changer de lieu pour cette nouvelle expérience?
Non, a priori, ce sera sur Terre en automne 2022 et dans un milieu aride, d'accord.
Dans un milieu aride, donc désertique. Faudra venir nous raconter cette biosphère 2. Corentin de Châtel-Perron. Pour avoir plus d'informations sur ces low-tech que vous utilisez et que vous souhaitez diffuser avec votre association, il y a votre site internet lowtechlab.org que nous allons mettre en lien sur la page du Temps d'un Bivouac. Je rappelle le titre de votre livre, Ma Biosphère, aux éditions Artaud. Et puis, évidemment, le documentaire 4 mois sur Ma Biosphère, dont on a entendu quelques extraits dans cette émission, disponible gratuitement en replay sur Arte TV jusqu'au vacances de Noël.
Jusqu'à Noël.
Corentin de Châtel-Perron, restez avec nous dans un instant. Nous serons en ligne avec un navigateur que vous connaissez, Victor Rowe. Il est parti sur les traces de Darwin et il se trouve en ce moment au Cap-Vert.
Avec mes grandes oreilles, au moins j'entends les abeilles et tous les appareils. La vie fait des merveilles de Maubeuge à Marseille. Tous y sont les merveilles, et de la tour Eiffel, j'entends même le soleil, avec mes grandes oreilles.
C'était Grandes Oreilles de M dans le Temps d'un Bivouac et c'est Valentine Chédebois qui signe la programmation musicale de cette émission.
Vu de la mer, le paysage de Porto Praia offre un aspect désolé. Les feux volcaniques du passé, la chaleur brûlante d'un soleil tropical ont presque partout rendu le sol impropre à supporter la moindre végétation. Le paysage, contemplé à travers l'atmosphère brumeuse particulière à ce climat, offre un grand intérêt. Pour qui n'a jamais vu que les paysages de l'Angleterre, l'aspect tout nouveau d'une terre absolument stérile possède une sorte de grandeur qu'une végétation plus abondante détruirait entièrement.
Charles Darwin décrivant les îles du Cap-Vert dans son livre Voyage du Beagle. Bonjour Victor Rowe.
Bonjour Daniel.
190 ans après Darwin, vous avez entrepris de refaire le parcours que le célèbre naturaliste avait fait à bord de son bateau, le Beagle. Nous avons décidé de vous suivre tout au long de votre parcours. Vous êtes actuellement au Cap-Vert. Vous êtes où exactement ?
Alors là, je me trouve présentement sur mon bateau, qui est donc au port de Mindelo, sur l'île de São Vicente. Et c'est vraiment bien que vous ayez passé cet extrait de Darwin, parce que comme lui, il y a environ 200 ans, je suis face à ces paysages assez lunaires, assez majestueux, ces montagnes qui sont complètement arides, parce qu'ici, il pleut très peu. Un paysage qui est vraiment, vraiment formidable et impressionnant.
Ouais, alors, nous vous avions eu en ligne juste avant le départ, il y a près d'un mois et demi. Et notre invité ce jour-là, Titour Lamazou, vous avez mis en garde pour la traversée du golfe de Gascogne. Comment ça s'est passé votre voyage pour arriver jusqu'au Cap-Vert ?
Eh bien, j'ai envie de dire que Titour Lamazou a eu le nez creux. Évidemment, il est très expérimenté, mais en fait, c'est vrai que le départ a été assez musclé, parce que donc on est parti il y a 7 semaines environ, et pour venir au Cap-Vert, en fait, on a fait quand même quasiment 4000 kilomètres à la voile, et le départ, en fait, les premiers jours en passant le golfe de Gascogne, c'était les journées les plus intenses en fait en termes de navigation, notamment la première nuit qui a été assez sportive. On a déroulé notre chaîne en fait qui tient l'ancre sans faire exprès évidemment, un peu dans la tempête, et donc ça a été hyper musclé. J'avais le mal de mer, on venait de partir il y avait à peine 10-12 heures, et je me suis dit oh là là, mais si on fait 3 semaines de navigation comme ça, je vais jamais arriver au Cap-Vert. Et puis au final, la chance qu'on a eue, mais c'est aussi parce qu'on a un très bon routeur en Bretagne, c'est que le temps s'est calmé, les alizés se sont établis, ces vents qui portent vers le sud, et puis on est arrivé finalement sans encombre au Cap-Vert en passant par l'île de Madère.
Alors au fur et à mesure, vous lisez, Victor, le récit de voyage de Darwin, Voyage du Beagle, et vous retrouvez certaines sensations, certains paysages qu'il a décrits, lui, en son temps, il y a 200 ans.
Exactement. Alors en fait, moi ce que j'ai fait, comme vous dites, c'est que j'ai décidé de lire le livre de Darwin dans la temporalité où moi je vivais le voyage. Et je constatais que, comme Darwin, la température qui monte progressivement, le bleu de la mer qui s'intensifie, ces parallèles historiques, moi je les ai trouvés extrêmement intéressants. Ça m'a vraiment mis dans cette histoire de Darwin et du Beagle que je retrace. Et puis la découverte de ces paysages absolument fantastiques du Cap-Vert me procure une émotion qui est, je pense, assez similaire. Et on a également comme ça un petit parallèle intéressant, c'est le passage de l'île de Las Palmas aux Canaries, qui est rentré en éruption là il y a quelques semaines. Et bien Darwin est passé devant, il devait s'y arrêter, mais il n'a pas pu parce qu'il y avait une épidémie de choléra à ce moment-là en Angleterre, donc les autorités des îles ne l'ont pas laissé débarquer. Et comme lui, on est passé juste devant, et on a même cru percevoir encore des volutes de fumée de cette éruption qui a eu lieu il y a quelques semaines.
Alors qu'a fait Darwin au Cap-Vert quand il est arrivé sur cet archipel ?
Alors, Darwin, c'était quelqu'un qui était passionné de sciences naturelles, qui avait cette curiosité débordante, non seulement sur le vivant, mais aussi sur la géologie. Et en fait, l'archipel du Cap-Vert, c'est donc un archipel volcanique et extrêmement intéressant d'un point de vue de sa géologie. Et Darwin a commencé par décrire ce qu'il voyait, par beaucoup écrire sur cette géologie particulière, très basaltique. Et il s'est aussi progressivement intéressé au vivant, avec notamment cette espèce de poulpe, qui l'a fasciné dès le début par ses capacités à changer de couleur, à changer de texture. Et c'est un petit peu cette fascination, ce premier travail initial sur le poulpe qu'on a voulu continuer pour l'expédition Captain Darwin ici au Cap-Vert.
Et du coup, vous avez décidé de vous intéresser à ces poulpes. Qu'est-ce que vous avez fait exactement, Victor ?
Alors, la première chose avec le poulpe, c'était déjà de réussir à savoir s'il y en avait, parce qu'ils avaient encore jamais été observés en sous-marin aux îles du Cap-Vert. Donc du coup, on a plongé et c'était la première plongée. On est descendu à 30 mètres de profondeur sur l'île de Razo et on en a trouvé. On en a trouvé non seulement un, mais même deux qui étaient en train de se reproduire. Et une fois qu'on avait déterminé qu'il y en avait, l'idée, c'était de faire une batterie de tests de comportement. En fait, d'essayer de mieux comprendre l'écologie et la réaction du poulpe, de l'animal face à son environnement. Et notamment, ce qu'on a fait, et ça c'était génial, c'est qu'on a fait le test du miroir qui sert à savoir si le poulpe a conscience de lui-même. Et ça consiste tout simplement à descendre un miroir, à le mettre devant sa tanière et avec des caméras de surveillance, de filmer sa réaction face à son propre reflet.
Ah oui, d'accord. Donc vous avez essayé de savoir si le poulpe avait conscience de lui-même. Alors quelle est sa réaction face à son reflet ?
Alors, c'est assez étonnant. Quand on descend le miroir, en fait, le poulpe commence à avoir une attitude très agressive vis-à-vis, en fait, de lui-même. Donc, on le voit changer de texture. Il y a des piquants qui commencent à se créer sur sa peau. Et il clignote littéralement du blanc au noir. Et passer une phase où il se regarde un petit peu comme ça, sans trop savoir quoi faire, il se jette littéralement sur le miroir, comme pour l'attaquer. Et puis, en fait, il constate qu'il se fracasse finalement contre une vitre. Donc, en fait, il se retire un peu. Et au fur et à mesure des incursions du poulpe, on voit qu'il change de comportement et qu'il s'adoucit de plus en plus, à l'inverse d'autres poissons qui, pendant une heure d'enregistrement, s'attaquent en permanence, qui t'a quasiment cassé le miroir finalement. Et ça pourrait montrer que le poulpe a cette conscience de lui-même, même si évidemment il y a des travaux scientifiques plus poussés à faire pour le confirmer.
Ouais, alors voilà des observations qui auraient passionné Charles Darwin certainement. Qui sait ce qu'il en aurait pensé? De façon générale, les écosystèmes terrestres et maritimes ont-ils beaucoup changé depuis son époque en 200 ans, d'après ce que vous avez pu observer, parce que vous y êtes déjà depuis un petit mois maintenant hein, sur cet archipel?
Tout à fait. Alors, des changements, il y en a beaucoup. Alors déjà, en terrestre, ce qu'on constate, c'est que les îles sont plus arides aujourd'hui qu'elles ne l'étaient à son époque. Et ça, c'est lié à plusieurs choses. Déjà, à la présence coloniale des Portugais sur plusieurs centaines d'années, mais aussi par les effets du réchauffement climatique. Et donc ça, ça pose plusieurs problèmes, ce problème d'aridité, que certaines associations essayent de corriger. En sous-marin, on constate une explosion de vie qui est littéralement hallucinante quand on considère l'aridité des sols en surface, des bancs de poissons de partout, beaucoup d'endémisme, beaucoup de biomasse. Mais par contre, ce qu'on observe, c'est la faible présence des grands prédateurs comme les requins, qui avant étaient extrêmement nombreux ici au Cap-Vert. Et là, ce qu'on a observé, c'est deux petits requins nourris et un requin qui serait peut-être un requin citron, mais il est passé tellement vite devant nous que c'était un peu difficile de le déterminer. Et on sait que les écosystèmes qui manquent comme ça de grands prédateurs, c'est des écosystèmes qui sont pas forcément durables dans le temps.
Victor Rowe, il y a une de vos connaissances avec nous en studio, c'est Corentin de Châtel-Perron. Vous êtes tous les deux dans le port de Concarneau quand vous n'êtes pas en aventure. Corentin, vous voulez poser une question?
Déjà, savoir si le requin citron était pressé du coup?
Non mais vraiment, Corentin.
Manifestement, il était assez pressé. Ouais.
Et non, mais j'adore ce que fait Victor. J'ai eu la chance de visiter son bateau juste avant qu'il parte, parce qu'on prépare tous les deux nos expéditions, nos projets à la base Explore à Concarneau. Ouais. Et donc j'avais hâte d'avoir des nouvelles. Et je trouve ça génial, le coup du miroir et du poulpe, etc. Et j'ai hâte de connaître les étapes suivantes.
Quelle sera la prochaine étape, justement, Victor?
Alors là, la prochaine étape, c'est cette traversée de l'Atlantique qui va avoir lieu au tout début du mois de janvier de l'année prochaine. 3 semaines de navigation à peu près qui vont nous amener jusqu'à la côte de Bahia au Brésil. Et c'est un endroit où on va travailler sur le paresseux, voilà, qui est un animal qui, moi, me plaît beaucoup. Ouais. Et le paresseux est notamment l'évolution de cet animal au regard de la fragmentation de la forêt tropicale atlantique qui est son habitat naturel.
Bon, on prendra de vos nouvelles à ce moment-là. Merci Victor Rowe, on peut suivre vos aventures
hein,
sur votre page Facebook et puis sur le site de l'expédition captaindarwin.org, il y a toute une partie pédagogique pour les enfants. Nous allons mettre les références sur la page du Temps d'un Bivouac et puis on reprendra de vos nouvelles dans quelques temps. À bientôt Victor!
À bientôt!
Le Temps d'un Bivouac replie sa tente. Pour nous réécouter en podcast, il y a l'appli Radio France et pour nous laisser un message, notre page Facebook ou franceinter.fr. À samedi prochain pour de nouvelles aventures!